You rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous parle du moment qui est à l'origine du morceau Pride de U2. Avril 1968, Memphis, capitale du Tennessee. Sur le balcon d'un motel, les yeux dans le vague, le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix se remet de sa prise de parole de la veille. Il discute avec Jesse Jackson, un de ses plus proches amis. Ce soir, Martin Luther King doit assister à une réunion publique. Voilà plusieurs jours qu'il est à Memphis, dans le but de soutenir les éboueurs noirs locaux. Ils sont en quête d'un meilleur salaire. Et ils ne peuvent pas rêver mieux que le pasteur comme allié dans cette quête de reconnaissance. Jesse Jackson, lui, ne cesse de le féliciter pour le discours qu'il a donné la veille au soir. Certains des mots de Martin Luther King lui résonnent encore aux oreilles. « Oh, c'est pas vraiment important ce qui arrive maintenant. » Certains ont commencé à parler des menaces qui se profilaient. « Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de la part d'un de nos frères blancs malades, hein ?» Une prophétie, peut-être bien. Ce ton combatif n'est pas anodin. Malgré le Civil Rights Act, rien ne semble encore acquis pour les Afro-Américains aux États-Unis. Cela ne fait que quelques années qu'ils peuvent manger dans les mêmes restaurants que les Blancs, qu'ils peuvent aller sur les bancs de l'université ou s'asseoir dans les mêmes bus. Si Luther King est épuisé, c'est parce qu'il mène ce combat de toute une vie, sans mesure ni retenue. Et ce, depuis de longues années. Le temps à Memphis est calme, presque suspendu. Il n'y a pas de vent. Le pasteur et son ami échangent sur ce qui les préoccupe. La ségrégation raciale n'est encore qu'un cauchemar qui n'a pas eu le temps de se dissiper. Un siècle de terreur et de racisme, un siècle d'horreur et d'injustice. Voilà ce qu'il faut chasser des esprits et des mémoires. Sur son balcon, le prix Nobel de la paix allume une cigarette. Il réfléchit à un prochain discours, pourquoi pas sur les origines de la ségrégation raciale. Si on connaît son passé, alors on prépare son avenir. Voilà une formule choc. Cette ségrégation est née au lendemain de la guerre de sécession, à la suite de laquelle Lincoln a aboli l'esclavage. Égaux devant la loi ? Tu parles. Le Sud, incapable de reconnaître la liberté des anciens esclaves, prend alors des lois qui les marginalisent de toutes les strates de la société, des services publics aux transports. Il a fallu des monstres sacrés pour se sortir de la torpeur. L'un d'entre eux est Martin Luther King, en 1955, à 26 ans. Alors qu'il observe les mouvements dans la rue et que déjà l'ombre semble l'envelopper, Martin Luther King se remémore ses jeunes années d'action. Pour lui, un seul mot d'ordre, non-violence. C'est lorsque Rosa Parks est arrêtée dans un bus qu'il prend la tête d'un mouvement de protestation. Depuis plus d'une décennie s'est écoulée, et le jeune homme, sous le poids des actions, des marches et des menaces, est devenu un quadragénaire anxieux et épuisé. Ils sont nombreux à vouloir sa peau. Le pasteur se sait sur la corde raide. Les suprémacistes blancs le guettent, là, dans l'obscurité. Ils sont nombreux et organisés. Le Ku Klux Klan, organisation phare de ces mouvances, est un ennemi de taille. Depuis 1865, le clan n'aspire qu'à une seule chose, faire taire celles et ceux qui se battent contre la ségrégation. Martin Luther King, au cœur du tourbillon, a déjà subi plus que ce qu'un homme peut supporter. Attaque à la bombe, arrestation abusive, on ne lui offre aucun cadeau. L'auteur du célèbre « I have a dream », loin d'être là, continue la lutte en promouvant la désobéissance civile. Loin du Black Power porté par Malcolm X, assassiné il y a 3 ans, le pasteur, lui, organise de grands discours, démarches pacifistes. celle sur Washington, à la fin de l'été 1963, a rassemblé près de 250 000 personnes, un record. Voilà que se pointe Ben Branch, un des musiciens qui doit jouer ce soir. Martin Luther King, dans un grand sourire, ne peut s'empêcher de lui demander un service. Prévois de jouer Precious Lord, Take My Hand à la réunion de ce soir. Joue-le de la plus belle manière. Et puis, en un claquement, la réalité se brise. Memphis est plongé dans l'obscurité. Sur son balcon, devant la chambre 306, Martin Luther King vient d'être abattu. Une balle dans la gorge. Il est 18h01. Le choc de la mort du pasteur le plus célèbre du monde, partout, est une déflagration terrible. L'opinion se mobilise. Elle n'est pas la seule. Des générations entières de musiciens sont marquées par ce drame. Parmi eux, et bien des années après l'assassinat du prix Nobel, de jeunes Irlandais vont lui rendre hommage et transformer la douleur de cette mort en l'un des tubes les plus connus de la musique rock. Je veux ici vous parler de U2 et de son inégalable morceau Pride in the Name of Love. Un moment marquant de l'histoire américaine qui va inspirer les artistes du monde entier. Pride est un morceau à part, écrit des années après l'assassinat du pasteur. Il est né de la plume de U2, un groupe on ne peut plus engager, qui ne cherche qu'une chose, se battre pour la liberté des opprimés. U2, formé en 1976, prend véritablement son essor à compter du début des années 1980. La bande de potes, venue de Dublin, sort de l'ombre avec Boy et October, ses deux premiers opus. Pourtant, c'est avec War, en 1983, que le groupe bascule dans une toute autre dimension, celle de l'engagement. Avec les titres Sunday Bloody Sunday et New Year's Day, Bono, The Edge et les autres n'hésitent pas à se révolter contre les injustices. C'est en particulier le cas avec celle traversée par la population irlandaise lors de ses heurts avec la couronne britannique. Le quatrième album du groupe, The Unforgettable Fire, sort quelques mois seulement, après cet immense succès et reste profondément imprégné par cette volonté de rendre hommage aux luttes pour la liberté. C'est ainsi que Pride est né. Ce titre est avant toute chose une représentation du monde, tel que Bono, le chanteur du groupe qui a composé le morceau, se le représente. L'engagement du groupe pour la cause irlandaise s'exporte en quelque sorte sur le sol américain. Le morceau est un hommage à Martin Luther King. Tôt le matin, le 4 avril, on entend des tirs dans le ciel de Memphis, enfin libéré. Ils t'ont enlevé la vie. Ils n'ont pas pu te retirer ta fierté. La référence au pasteur est claire. Il s'est pourtant glissé dans les paroles de Bono une petite erreur. Luther King n'a pas été assassiné tôt le matin du 4 avril, mais bien peu après 18 heures. Il n'est pas rare, depuis qu'on lui a fait remarquer, que le chanteur vienne à changer ses paroles durant les représentations du groupe. Mais au-delà de la personne même de Martin Luther King, Pride est une ode plus globale à celles et ceux qui, comme lui, sont prêts à sacrifier leur vie pour un idéal qui les dépasse. One man come on a barbed wire fence. One man he resists. One man washed on an empty beach. One man. Un homme prisonnier d'une clôture barbelée. Un homme qui résiste. Un homme naufragé sur une plage vide. Un homme trahi par un baiser. Et pourtant, tout n'est pas dans cette piste iconique de U2 une question de souffrance, bien au contraire. L'héroïne de l'histoire qui nous est ici contée, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas l'horreur. Ce n'est pas juste Martin Luther King. Pride est avant tout une affaire d'amour. Et par ricochet, une ode à la non-violence. Un homme se présente au nom de l'amour. Ou bien encore dans le refrain. Love, Au nom de l'amour, quoi de plus au nom de l'amour ? Pride, c'est aussi l'histoire d'un tube qui a connu une évolution notable. Au début, Bono souhaitait composer quelque chose contre le patriotisme guerrier. C'est lorsqu'il se met à lire des biographies sur les leaders de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis qu'il décide de modifier complètement le sens de ses paroles. Le morceau va convaincre le public, notamment aux États-Unis, où la référence à Martin Luther King est particulièrement appréciée. Mais la presse, elle, est moins emballée. Moralisateur, trop candide, le titre est parfois vilipendé. Le groupe, lui, clôture son album avec un hommage encore plus direct au pasteur, avec le titre Martin Luther King. Mais Pride ne convainc pas tout à fait Bono, qui n'hésite pas à dire dans certaines interventions qu'il estime avoir écrit des paroles bourrées de clichés. Le leader de U2 revoit sa copie lorsqu'il prend conscience de l'énergie dégagée par le morceau et plus particulièrement par son refrain. Les critiques, elles aussi, ont fini par se raviser. Le magazine Rolling Stone a classé Pride parmi les 500 morceaux les plus importants de tous les temps. C'est tout de même pas rien. Pride, en 2024, était le morceau le plus joué par U2 en live, avec, tenez-vous bien, pas moins de 1056 représentations. De quoi rendre fier un certain Martin Luther King.
Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app RTBF Actu.